L'algorithme.
Les réseaux sociaux, c'est obligatoire.
Il y a un côté presque un peu fast fashion.
Un set, une track.
Aujourd'hui, DJ is the new rockstar.
Être DJ, enchaîné de morceaux, tout le monde est en capacité de le faire.
Moi, je pense que la musique, c'est du partage.
Pour moi, c'est un voyage, un sentiment de communauté aussi.
Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal.
Maintenant, on recherche clairement l'image, l'instant T, le banger.
À l'heure actuelle, c'est ça. Il faut que ça soit en vidéo.
La musique, c'est de l'écoute, c'est pas de l'image.
Il y a peut-être un appétit, une gourmandise du feedback.
Si on n'en discute pas, il n'y aura pas de changement.
Bienvenue dans Online Club, un podcast en 3 épisodes qui interroge un panel d'actrices, DJ et organisatrices de soirées sur la musique électronique, la club culture, le DJing, la communication et la notion de communauté à travers le prisme de la révolution numérique. Ce podcast aborde, dans un ordre chronologique, l'époque des vinyles, que nous appellerons l'ère pré-internet, l'apparition d'internet, du numérique et leur impact sur la club culture, et enfin l'ère des réseaux sociaux, les algorithmes et effets de mode. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yuen, aka YN, DJ et passionné de musique électronique depuis mes 16 ans lorsque j'ai découvert les clubs techno dans la ville de Lyon. J'ai aujourd'hui 27 ans et je suis également étudiant à l'école supérieure d'art et de design d'Orléans avec laquelle j'organise des soirées à mon échelle. Dans le cadre de cette création radiophonique réalisée avec l'aide de Radio Campus Orléans, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer sa programmatrice, Viviane Berreur, DJ sous le nom de DJ Vivi et animatrice de l'émission Rien ne fera venir le jour, que je remercie pour m'avoir permis de créer ce podcast. J'ai aussi pu interviewer Camille Belin, aka Camtar, DJ, fondateur du festival aujourd'hui terminé Fusion Estival. Il est aussi le fondateur de Tarmac 3000, son chargé de communication et programmateur. Fun Ryu, DJ et cofondateur du label Jerry Horny. Maël Cobb, DJ et membre du collectif parisien Two Steppers. Kidja, DJ, animateur de l'émission Il est chelou ton son et organisateur d'événements. DJ Mister Wallace, DJ, organisateur d'événements et co-animateur de l'émission Le Saint-Disque. Et enfin, François, DJ et co-animateur depuis 10 ans du catalogue électronique. Grâce à ces entretiens menés à Radio Campus Orléans en présentiel ou en visioconférence, j'ai pu récolter des récits, des expériences de vie que j'ai pu confronter et que je voulais vous partager. Online Club, épisode 2. Internet et numérique, rendre la culture plus accessible. Dans les années 90-2000, la révolution numérique bat son plein. La musique et le monde du DJing n'y échappent pas. Malgré l'apparition du format MP3 en 1992, de la plateforme de téléchargement de musique en peer-to-peer Napster en 1999, puis la démocratisation du format numérique avec iTunes et l'iPod en 2003, il faudra attendre 2007 et la platine CDJ400 de chez Pioneer pour pouvoir jouer ce format en club. Ce format a participé à la démocratisation de la pratique du DJing en la rendant plus accessible. Plus obligé d'avoir une collection de vinyles pour pouvoir mixer, il suffit de se constituer une bibliothèque numérique et de la stocker dans une clé USB. Dans les années 2000 apparaissent les premiers forums en ligne, les blogs et les réseaux sociaux dédiés à la musique comme MySpace en 2003. Des communautés internationales en ligne formées de fans et d'artistes se créent, rendant possible le dialogue direct avec les musiciens présents sur les forums. Avec la création de plateformes comme YouTube en 2006 et SoundCloud en 2007, l'univers de la musique se trouve bouleversé. Les musiciens peuvent maintenant diffuser leurs créations directement sur Internet et permettre ou non leur téléchargement. Un véritable changement s'opère dans la manière d'écouter la musique, accessible depuis n'importe où avec l'aide d'un smartphone ou d'un ordinateur. Je me demande alors comment s'est opéré ce changement de paradigme à l'échelle individuelle. Comment a-t-il influencé notre manière d'écouter et de découvrir de la musique ? La communication autour des soirées, de la programmation musicale ou même la communication autour de la sortie d'EP se faisait-elle déjà en ligne dans les années 2000 ? Je pose alors la question à François, DJ Mister Wallace et Kidja.
Sur les soirées, ça a commencé. En fait, la chose qui m'a amené à un maximum de découvertes à l'époque, c'est pas forcément très bien de dire, mais c'est le piratage. J'ai commencé avec Napster, hein, où il fallait peut-être 45 minutes pour récupérer un morceau, et encore, c'était pas garanti qu'on récupère ou que ce soit le bon ou je ne sais pas quoi. Bah, j'ai commencé comme ça, avec une pauvre connexion internet chez moi, et là j'ai fait beaucoup de découvertes, beaucoup de retours en arrière en fait, parce que comme j'ai découvert, comme je me suis mis vraiment en musique électronique aux années 2000. En fait, les vraies années techno, 80, du début jusqu'aux années 2000, je ne les connaissais pas vraiment. Et donc, je les ai découverts via le piratage.
Alors, bah moi, oui, Internet, j'ai commencé dans les années 2000, bah justement pour me renseigner de ce qui se passait, quoi. Je continuais toujours à acheter voilà, les magazines Tsugi, Trax, voilà, Koda, ça n'existait plus. Ce qui était super, Trax, c'est que c'était le premier magazine qui faisait ça, c'est que dès le départ, il y avait une compilation de 10-11 morceaux dans chaque exemplaire qui était sorti, quoi. Donc ça permettait en plus d'avoir, au-delà des articles, des critiques, d'avoir une vision un petit peu voilà, globale et éclectique de tout ce qui pouvait se faire, donc des sorties. Donc ils prenaient un morceau de l'album de Fabulous Sim, un morceau de l'album de Chemical Brothers, de Laurent Garnier, de Massive Attack. Et du coup, c'était génial d'avoir ça et on l'attendait. Enfin, moi, j'attendais mon magazine, j'étais super pressé, super emballé, quoi. Et après, bah oui, effectivement, il est arrivé d'Internet. Et puis après, bah, l'ouverture vers un catalogue sans fin, quoi. Avec l'arrivée des premiers peer-to-peer, Imul, et de se dire, bah voilà, on peut avoir la musique quand on veut de chez soi et gratuitement. Après, en tant que DJ passionné de musique, c'est super. Après, il faut penser aussi aux artistes. Parce que bah, les artistes de musique électronique, déjà, ils vendent pas beaucoup de musique, mais le peer-to-peer n'a pas fait du bien à ces artistes-là. Donc oui, je suis passé par une grosse période de digging via Imul et de se dire, putain, je peux avoir toute la musique que je veux. Quoi. Je suis pas obligé de me déplacer jusqu'à Orléans pour avoir un bac de disques où je vais avoir 500 vinyles, enfin, même pas 200 vinyles. Ou une montée sur Paris, pareil, pour être limité. Et là, c'est-à-dire qu'en plus, on pouvait retrouver le morceau que je cherchais depuis 20-30 ans, qui était en édition limitée, avec le remix que je voulais, ou me faire une discographie complète d'un artiste que j'adorais.
Tandis que dans les années 2000, les logiciels de téléchargement peer-to-peer comme Imul et Napster étaient de véritables mines d'or pour découvrir de la musique, c'était sur les blogs et les forums que nous pouvions trouver de l'information.
Ça a commencé, l'endroit où j'ai vu que je pouvais trouver de l'information, ça allait être les forums. Et les forums, je me suis retrouvé donc sur C8, le forum de Breakcore, mais qui était anglophone, le forum des fans de Venetian Snare. Et ça, il y avait des francophones dessus, donc je m'y sentais un peu à l'aise, et puis ça m'avait vraiment foutu une calogue des Venetian Snare. Le forum Raga Jungle, pareil, anglophone, et puis à la fin, j'ai fini en 2008 sur le forum Cannibal Caniche. Mais tous les autres forums, là, c'est forums anglophones. C'était intéressant, je voyais l'actualité, je voyais des gens discuter des styles. Et le forum, c'est toujours un peu, ouais, tu parles un peu de ce que tu as mangé aussi. Enfin, tu vois, il y avait déjà un côté exhibitionnisme. C'était pas que sur le sujet, quoi. Et du coup, il y avait toujours cette section qui était autre musique. Et là, le dubstep, mes premières approches du dubstep, c'est sur un forum de breakcore que j'ai découvert ça. Je m'étais aussi retrouvé sur un forum d'échange de musique où là j'avais eu accès. C'est ça, c'est d'un coup tu augmentes tes communautés, d'un coup tu augmentes tes gens, et en plus quand tu arrives sur le forum, il y a un peu ce truc de ok, on est déjà copains, quoi. C'est un peu, ouais, c'est comme quand tu voyais un mec habillé comme toi, tu fais vas-y, on doit être potes, ou t'écoutes la même chose, ou. Là, on arrive sur le même forum, c'est bon, il y a bien une raison pour laquelle on est là, et normalement ça va bien se passer, et de toute façon on est là pour échanger. Et pour partager cet amour qu'on n'arrive pas à partager avec des semblables IRL. Et puis ouais, c'est ça, moi, c'est ça aussi, d'être en confiance avec des gens, te dis, ok, lui il est en train de mixer de la tropicale, alors que je le connaissais hyper dark. Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être. Tu vois, ça m'a permis d'accepter des choses plus facilement aussi. En me disant, ouais, lui, elle, ses copains, quoi. Donc, si ça écoute ça comme ça, il y a peut-être une raison, il y a peut-être un intérêt, il y a peut-être une pertinence que je dois aller chercher d'y mettre un peu plus du mien.
C'était pas organisé. Donc, les plateformes n'étaient pas organisées. Donc, il fallait trouver l'info à côté. Et là, pour le coup, c'était. C'était les blogs, c'était le début de MySpace qui était complètement anarchique et dégueulasse. Ça faisait mal aux yeux. Je ne sais pas si tu as pratiqué, mais il n'y avait pas du tout de règles d'interface. Donc dès qu'on posait un truc, il y avait une image comme ça, une comme ça, un lien, un bout de musique, un extrait. Voilà.
peer-to-peer a largement contribué à la découverte musicale pour qui avait accès à un ordinateur et à Internet. Mais peut-on dire pour autant que mettre à disponibilité les musiques directement sur Internet a permis de rendre la culture plus accessible au grand public ? Ou, au contraire, était-ce déjà là le début d'une consommation plus déraisonnée ? Je pose alors la question à Maëlle.
Je pense que oui, clairement, ça a permis clairement de faire découvrir plus de musique. Ça a vraiment permis une découverte d'artistes. Avant, j'imagine que pour promouvoir sa musique, ça devait être bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Avant, il fallait se déplacer dans les disquaires, faire écouter aux disquaires sa musique. Et en fait, finalement, cet avis s'était retranché sur une personne. Et cette personne était un peu décisionnaire de si ta musique valait le coup d'être partagée ou pas. Aujourd'hui, je trouve ça bien que l'ère du numérique, elle ait un peu démocratisé ça et qu'on puisse le partager au plus grand nombre, parce que le but premier pour moi de la musique, c'est le partage, c'est vraiment de partager ça aux autres. Là où je suis aussi d'accord avec l'autre partie de ta question, c'est que effectivement, maintenant, il y a aussi le problème que certains producteurs veulent avoir un petit peu tout de suite, passent pas forcément par toutes les étapes un peu difficiles de production où il faut que ça prenne du temps, c'est un apprentissage qui est long. Et en fait, il y a peut-être un shift qui s'est passé aussi, c'est dans la volonté de percer tout de suite et du coup de faire de la musique qui fonctionne pour un public qui va l'écouter rapidement. Et en fait, c'est dans l'intention du coup que là, il y a un problème qui se passe, c'est que tu fais plus de la musique pour qu'elle soit aimée et partagée avec les autres, tu fais de la musique pour percer, pour faire des grosses scènes, etc. Et c'est en ça, je pense, qu'il y a eu un gros développement de la scène ces derniers temps vis-à-vis de ça. Mais voilà, en fait, pour moi, la bonne réponse, ça sera toujours l'intention première, en fait. C'est pourquoi on fait de la musique. À la base, on fait de la musique pour s'amuser, pour apprendre, et ensuite pour la partager aux autres. Si l'intention première de faire de la musique, elle est dans le fait de faire des boiler rooms et de percer et de faire essayer de filmer hyper, hyper connu, je trouve que là, ça perd un peu de son sens pour le coup.
C'est la position que tu as avec la musique. Si c'est qu'un objet d'ambiançage et de consommation, là c'est le bordel. Là c'est le bordel pour toi. Il y en a trop. Et pour l'artiste, il n'y a plus d'artiste qui se fait réellement reconnaître. Il y a un peu un truc comme ça. Pour des geeks, pour des nerds, pour des gens qui aiment la musique, pour les gens qui aiment les cultures qui se rencontrent, c'était trop bien. C'est encore trop bien, ça l'est un peu moins parce que tous ces sites qui t'offraient de l'hébergement gratuit, ils t'en offrent beaucoup moins. Il y a des pubs dans tous les sens, il y a des trucs comme ça. Mais SoundCloud, fin 2000 et tout le début 2010, mais c'était magique. C'est vraiment magique où t'es là. Et pareil, tu vois, il y avait ce truc genre je suis cet artiste et on me disait tout ce que l'artiste il avait écouté. Donc vas-y, je vais écouter tout ça. Et là, je découvre plein de trucs. Ou au contraire, je me fais, ok, il a des goûts de chiottes, lui, en fait. mais ouais, tu bouffes. Tu peux vraiment bouffer des trucs. Et on a vu des choses vraiment apparaître. Tu vois, j'ai eu un label, la Sous-couche ethnique, avec Samuel. Et c'était ça. On est arrivé à trouver des gars qui mélangeaient de la trap avec de la cumbia. J'exagère encore, je tire les traits, mais c'était ça, c'était de la trap avec de la cumbia, avec un sound design de percussion latine qui était absolument pas usuel pour ces formes de musique là. Enfin, c'était trop. Enfin, ça a été pour la musique dance floor, pour ce qui m'a intéressé, j'ai trouvé ça super bien, et il me semble que ça a été pour plein d'endroits. Pour plein de musiques, hyper intéressant de pouvoir se mélanger, pouvoir bouffer quelque chose d'autre. Le dubstep, c'est hyper intéressant pour ça. Tu regardes le début du dubstep, comme il y a déjà Internet, l'information, elle est passée super vite. Et là, c'est genre, ah ok, le retour de la lenteur. Et donc, il y avait ceux qui faisaient de la lenteur, ceux qui faisaient du triolet, ceux qui faisaient de la grosse basse, ceux qui faisaient du dub, ceux qui faisaient des trucs dark. Ils sont tous arrivés, ils ont fait des trucs. Donc, tu avais du dubstep doom, du dubstep breakbeat, du dubstep total Rastafari, du dubstep Aouzi fait par des mecs de Scandinavie. Trop bien. Et ça, ouais, c'est vraiment. C'est Internet qui fait que d'un coup, l'information, la discussion, le brainstorm, il est encore plus rapide. Et puis après, on arrive à d'autres exemples où le footwork jungle, en fait, il y a deux mecs à avec un océan entre eux, qui ont développé l'idée en même temps, quoi. Ça, c'est peut-être le moment où, ah, tiens, ça y est, l'information elle est trop répartie.
Quand je pose la question à Fun Ryu, son avis est tout aussi nuancé.
Il y a un côté presque un peu fast fashion, tu vois, c'est-à-dire que je pense que déjà le physique, finalement, il y avait tout un truc de possession, etc. Et je pense qu'en fait, d'avoir trouvé un disque dans un bac et de le garder finalement en format physique, c'est-à-dire que c'est un truc qui peut nous rester, enfin ce disque-là peut rester à la personne pendant un certain temps, enfin pendant de longues années, alors que je pense qu'acheter de la musique en digital, finalement, c'est un peu comme le rapport avec la fast fashion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en tant que DJ par exemple, hein, on va pouvoir jouer ce morceau le temps qu'on aura entre guillemets un peu saigné ce morceau, et après je pense qu'on passera vite à autre chose. Et je pense que c'est un peu ça, c'est qu'on a peut-être moins tendance à jouer les morceaux que l'on achetait il y a 4 ans. Je pense que si on se renouvelle tout le temps, parce que voilà, c'est un flot continu de nouveautés et de découvertes. Donc en fait, dans les deux sens, il y a un côté en fait qui est super, je trouve, aussi dans ce truc là parce que par exemple, quand il était question d'aller chez des disquaires, etc., pour diguer de la musique électronique, c'était forcément un processus qui était beaucoup plus chronophage. Et en même temps, il y a un côté super, découvrir une musique, forcément, vu que c'était plus compliqué d'avoir le temps d'avoir chopé, je sais pas, 10 disques super. Là, en une soirée, on peut écouter, 1000 morceaux, quoi, 500 EP ou j'en sais rien, Et donc, du coup, forcément, ça nous amène à avoir beaucoup plus de découvertes.
Nous l'avons compris, Internet a facilité et a augmenté nos possibilités de découverte. Cependant, la communication autour des événements, des actualités musicales a-t-elle été impactée par cette conversion au numérique dans les années 2000 ?
Facebook, ça a tout niqué. Parce qu'encore, avant Facebook qui s'est mis à tout centraliser, avant Facebook, t'allais flyer dans le bar, dans les bars, t'allais flyer dans les forums où tu traînes, t'étais encore dans le truc de « je fly à plein d'endroits ». T'allais mettre un truc sur MySpace, t'allais mettre un truc sur les forums. Et puis après, y a eu Facebook qui a tout centralisé. C'était genre… t'avais 2-3 fly avec genre « va regarder l'event FB ». Donc là, c'est encore en train de repartir, mais j'ai l'impression que c'est Instagram qui a pris le relais. Et c'est un peu genre « si t'as pas Instagram et que tu suis pas les bonnes personnes, t'es pas au courant des bonnes soirées ». Donc ça reste… Au bout du compte, ça change, mais faut toujours un peu ramer, quoi.
En vrai, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont créés. Je pense notamment à Shiner de House, tous ces groupes-là. En fait, il y avait pas mal de groupes qui se sont créés sur Facebook. Et en fait, c'était vraiment des groupes qui étaient créés pour du partage pur et dur de musique. Et donc, ça a clairement façonné ma façon d'écouter de la musique. Parce que dans ces groupes-là, on pouvait retrouver… des producteurs qui étaient assez niches, qui commençaient un peu à percer, qui nous partageaient soit leurs unreleases, et du coup, ça apportait une connaissance un peu des titres qu'ils pouvaient produire, autres que ce qu'on pouvait voir qui étaient sortis, et aussi partager leurs pépites qu'ils ne voulaient pas trop partager dans leurs clés. Mais là, c'était vraiment ces groupes-là qui étaient faits pour ça, c'était vraiment du partage pur et dur de la musique, et donc forcément… quand on s'y intéresse un peu, quand on met un peu le nez dedans, ça façonne clairement notre façon de, voilà, de découvrir la musique, etc. Et il y avait un partage qui était beaucoup plus amical aussi dans le fait que c'était un forum et que chacun avait sa place aussi pour parler de la musique. Au final, plus d'ouverture et c'était vraiment plus un sentiment de communauté aussi. Le fait que on se retrouvait tous pour un seul but, c'était partager de la super musique. Et du coup, vraiment, c'était vraiment des groupes qui existent encore. D'ailleurs, il me semble qu'ils existent encore. Ils sont peut-être moins suivis aujourd'hui, mais c'était vraiment de la découverte pure pour le coup.
Facebook, qui a centralisé l'information, a aussi mis en lumière toutes les initiatives locales. Et je laisse Viviane nous en parler.
Ah bah, ça a été le boom de la communication, justement. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un monde à côté de nous, quoi. Si on cherchait pas beaucoup, on avait l'impression, en effet, d'être dans une bulle de son territoire, et puis qu'on savait les infos parce que quelqu'un nous les donnait, ou parce que parce qu'il y avait une communauté peut-être téléphonique, par exemple. Il y a eu aussi le boom du graphisme qui allait avec toutes ces soirées et chacun devait cultiver aussi son identité. Les clubs aussi ont beaucoup décliné leur communication sur les réseaux sociaux et on arrivait à voir enfin peut-être davantage ce qui se passait, davantage qu'au travers des magazines qui étaient très parisiens aussi à cette période. Et même la production en fait musicale était électronique. Vraiment, ce qui nous arrivait, nous, à la radio, était très parisienne. Donc, on avait tout de suite un regard peut-être plus large sur toutes les productions qu'il pouvait y avoir et aussi toutes les soirées qui étaient proposées. Bon, on ne pouvait pas y aller, mais c'est pas grave, ça nous faisait rêver. Peut-être qu'on copiait aussi, en fait, on se copiait un petit peu les uns les autres. Et quelque part, en fait, ça faisait vivre vraiment, en fait, un mouvement sur Internet.
Années 2000, les blogs, puis les forums et les groupes Facebook ont vu naître les premières communautés en ligne. Je me demande alors si ces dernières avaient les moyens de se retrouver en physique ou si elles étaient limitées au réseau Internet. Les communautés en ligne étaient-elles porteuses de projets?
Bah, je pense que ces communautés ont justement permis de faire rencontrer pas mal de personnes qui, comme moi, quand tu habites au fin fond de la Sologne ou dans la Creuse ou dans un petit village perdu au fin fond je sais pas, des Alpes, et que tu vis une passion pour la musique et tu te dis bah dans mon petit village voilà, ils écoutent de la musique commerciale, je suis pas trop écouté, entendu, compris. Et du coup ces réseaux-là, ces groupes ont permis de se dire bah purée, je suis pas tout seul quoi. Comme quand on a créé notre blog avec mon pote, ça a permis de se dire bah voilà, il y a plein de personnes qui kiffent la même musique, le même son, voilà, que ce soit Toulouse, Lyon, Montpellier, Bordeaux. Et du coup, ça a permis d'échanger. Et moi, j'ai pas mal de connexions sur Tours. Voilà, il y a le collectif Les Yeux Électroniques. J'en parle beaucoup. Des fois, je choule même les personnes. Parce que, ouais, Tours, c'est bien, Tours, c'est bien. Oui, Orléans, c'est bien. Ouais, non, mais Tours, c'est bien, Tours, c'est bien. Et du coup, voilà, ça a permis de rencontrer des personnes. Et puis, bah, d'avoir des connexions, quoi. De se dire, bah, tiens, je vais te faire mixer. Et puis après, on s'invite. Et puis voilà, on échange. Et puis voilà. Et moi, je suis seulement sur Facebook. Et depuis sur Facebook, bah, j'ai pas mal de connexions avec des personnes de tous les endroits de la France. Et puis ça me permet même de rencontrer des artistes dont j'écoutais leur musique il y a 20, 30 ans. Et puis ça me permet d'échanger avec eux, quoi.
Alors moi je pense aux gros forums en fait, hein, les forums type Institube ou même des forums à plus petite échelle comme Cannibal Caniche qui était plus underground et tout ça. Donc il y avait des sites avec des blogs et puis il y avait souvent une grosse partie forum quoi, de discussion où les gens pouvaient poster tout et n'importe quoi. à la fois des playlists, à la fois des recos, et puis à la fois aussi shit talk. Mais voilà, donc ça, c'était... est-ce que ça... Oui, alors, ces gros forums, en fait, gros blogs, en fait, ont pu faire des soirées, par exemple. Donc, en effet, la communauté, elle s'est rencontrée physiquement à un moment donné. Et puis aussi, c'était souvent des forums qui étaient à l'initiative de personnes qui fédéraient, en fait, peut-être, de groupes qui fédéraient, d'artistes qui fédéraient aussi à cette période-là, où il y avait un, de toute façon, quelque chose de fédérateur, d'extrêmement fédérateur, parce que... on se sentait faire partie de cette communauté, justement. Donc, les soirées, elles s'organisaient, en fait, bien sûr, pour... parce qu'on était sûr de l'engagement, en fait, aussi des gens. Donc, ça t'assurait une bonne partie de ton public, quoi.
Je pense que ça vient des communautés. Après, je ne sais pas s'il y a eu vraiment un export de ça. En tout cas, je sais que, typiquement, tu vois, pour Chineur de House, c'était vraiment un groupe qui touchait tout le monde en France. Je pense que c'est possible qu'il y ait eu aussi des personnes, pas forcément françaises, qui postaient dessus. C'est même très probable. Et je sais que ça a donné lieu à des soirées Chineur de House où tu avais des personnes qui vivaient dans le Sud, qui prenaient leurs affaires et qui venaient monter. Je sais aussi notamment qu'il y a des groupes de DJ qui se sont rencontrés grâce à ces communautés-là. Je pense notamment à Copie Blanche qui est un label de house, où il y avait dedans Armless Kid, M-Jog et compagnie. C'est des mecs qui ne se connaissaient pas dans la vraie vie, qui étaient sur Chineur de House, qui faisaient du son et qui se sont hyper bien entendus sur leur façon de produire. Et en fait, ils se sont tous retrouvés sur Paris grâce à cette communauté et ils ont créé leur label ensemble. Et après, ils ont tous déménagé sur Paris et après, ils ont créé leur soirée Copie Blanche. Donc, De ces communautés en naissent quand même des beaux projets, ouais.
À l'échelle française, les blogs et forums ont eu un impact dans la vie réelle jusqu'à l'organisation de soirées permettant aux communautés de se réunir. Cependant, à l'échelle internationale, il semble qu'un autre facteur rentre en jeu.
Ça dépend du budget. Les communautés internationales, elles se sont faites avec des gens qui avaient un peu de la thune, qui savaient déjà faire de l'argent avec leur musique ou en organisant des soirées, des trucs comme ça. Moi, je t'avoue que dans les musiques non lucratives, faites par des gens semi-amateurs, on se retrouvait en France. Après, il y avait des gens qui étaient un peu plus carrés, hein, quand même. Et c'était d'ailleurs à leur concert qu'on se retrouvait. Ouais, c'est ça. La communauté internationale, c'est l'argent. Même si après tu as des contacts et des trucs comme ça, et y a des gens en fait, tu les vois pas pendant 15 ans quoi. Et puis un jour, il y a un gars qui arrive à se payer un billet d'avion et qui vient. Je vois les copains de Bruxelles, ils ont eu ça, tu vois. Toute la scène hip-hop noise, la connexion avec les États-Unis, comme en plus c'est pas des gars qui avaient la grosse tête et le ballon, donc ouais, ils prenaient leur avion et puis après ils venaient dormir dans des squats quoi. Donc ouais, ça, tout le rap noise, le dark hip hop et tout ça, ça il y a une communauté internationale qui, je pense, a été aidée par l'internet. Mais l'internet, ça a juste facilité des méthodes qui existaient déjà. Je sais pas si t'as vu là le documentaire sur la Grande Triple Alliance, mais ça je suis en train de regarder avec les dates. Mais il y avait quand même, tu vois, il y avait vraiment ce truc de tu fais de la musique qui me plaît vraiment, s'il y a ton adresse quelque part, je vais t'écrire. En fait, il y a vraiment des gens qui ont fait ça. Il y a vraiment des gens qui se sont rencontrés dès, tu vois, même déjà du temps de la poste. Donc ça a juste facilité le truc, l'internet. Facilité les communications, les pages MySpace, c'est ça. D'un coup, t'arrivais à avoir plus facilement accès à des artistes et en découvrir. Ouais, il y a aussi ce truc de... Moi, j'ai l'impression que là, comme il y avait une masse... Il y avait des fois, il y avait des rapports qui étaient un peu moins star-fan. Et donc on se demande plus facilement, en fait. Genre, hey, c'est trop cool, ça te dirait pas de venir jouer à Orléans, dormir dans mon canapé et on te fera une super bouffe. Et on essaye. on est copains Facebook. Enfin, tu vois, on est copains MySpace.
Internet et sa nébuleuse de blogs et de forums ont donc permis à des personnes éloignées géographiquement de se connecter à travers une passion commune. Je me demande si cela a alors participé à la décentralisation de la club culture en dehors de Paris.
Il y a eu des patrons de clubs, je pense à l'Enfer à Dijon, et puis d'autres clubs hein, dans certaines villes, où je pense que c'était une question de voilà, motivation et puis d'amour pour cette musique. Quoi. Comme le patron du Rex, où voilà, le Rex également, c'était un club au départ lambda qui faisait beaucoup de concerts de rock. Et du coup, c'est Christian Paulet qui s'est dit banco. On invite un collectif londonien et puis on fait notre première soirée techno et puis ça a marché. Et puis après, voilà, il a mis Laurent Garnier à boucle, il y a eu la première soirée Wake Up le jeudi. Puis après, il y a une programmation du mercredi au samedi quoi, de musique house techno. Je pense que c'est aussi des fois ouais, l'envie, la motivation de quelqu'un qui se dit bah ouais, banco, je vais faire un club 100% techno. Et Dijon, bah voilà, il a fait venir. Je ne me rappelle plus le nom du patron, hein, mais Laurent Garnier qui avait une résidence là-bas, et puis pas mal de DJ américains, enfin toute la crème de scène électronique a descendu à Dijon. Quoi. Donc je pense que, avant les réseaux sociaux, quoi, je pense que voilà, c'est partie de la motivation de quelqu'un qui est gérant d'un bar, d'une boîte, et qui se dit, bah, moi j'ai envie de faire un club ou un bar 100% électro, comme... je connais quelqu'un qui s'appelle Arnaud, qui est maintenant sur Paris et qui a ouvert le Cube. C'était un tout petit bar en face le Châtelet et qui était 100% musique électronique et qui a ouvert la porte à tous les DJ orléanais, qui a fait venir des DJ parisiens. Et voilà, tu pouvais mixer tout ce que tu voulais avec ta carte blanche. Et c'est ce qui manque actuellement cruellement à Orléans. C'est pas forcément un club, parce que est-ce qu'un club toutes les semaines remplirait sa salle? Je suis pas sûr. Mais il y avait au moins cet endroit-là, un bar, où toute la communauté orléanaise pouvait se réunir, discuter, échanger, boire un verre, et puis bah, rencontrer deux DJ de la scène électro. Donc, dommage, malheureusement, Arnaud est parti sur Paris, le bar a été repris, mais n'a pas été repris avec cette même couleur musicale, donc avis aux amateurs.
Si pour DJ Mister Wallace, la décentralisation est due à des initiatives individuelles de patrons de discothèques ou de bars, pour Viviane, il en est autrement.
Elle était déjà décentralisée. Il se passait déjà des choses dans le sud de la France, mais avec des grosses organisations de free party, par exemple. Il y avait aussi des festivals de musique électronique très reconnus en province. Je pense à Borealis, qui était d'abord, à Nîmes et qui a après été à Montpellier. Il y a eu Brest, bien sûr, Astropolis. Tous ces festivals ont participé vraiment à décentraliser déjà la culture, la culture club, la culture des musiques électroniques, d'aller danser sur de la musique électronique. Et puis après, en effet, ça s'est rendu plus visible. Peut-être qu'il y avait déjà beaucoup de choses, mais on sortait en effet de sa niche, de son territoire local ou régional pour vraiment toucher des gens qui venaient même pas forcément en fait à ces événements. Enfin moi je regardais en fait les coms, mais je me déplaçais pas forcément. Enfin voilà, on peut pas tout faire, mais ça permettait de voir tout ce qu'il y avait, et puis aussi de déparisienner un petit peu la musique qui marchait en plus à cette époque-là, hein. Si on se replace dans les années 2000 vraiment, ce qui transparaît vraiment de la presse spécialisée ou les productions, hein, je l'ai déjà dit, étaient très parisiennes. Les clubs, pour nous, c'était les clubs parisiens, quoi. Rex, le Pulp, toutes ces boîtes qui ont vraiment fait leur identité avec les musiques électroniques et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'inclusion, etc., quoi.
Et pourtant, pour Kidja, cela reste la grande ville.
Non, tu vois, ça reste la grande ville. Ça reste, en tout cas, moi, pour une partie des musiques qui m'intéressent, c'est des trucs hyper urbains. Donc, c'est pas des trucs où on se retrouve à la campagne pour écouter ça, bon, à moins que ça soit en mode free party. Non, tu vois, nous, et alors, en plus positionné à Orléans, il y a vraiment ce truc de les choses elles se font à Paris. Quand t'es à Orléans, les choses elles se font à Paris, et tu t'essayes de faire des trucs à Orléans. Mais... la cumbia digitale début 2010, ça n'a pas marché. Le commerce, c'est quand il y a de la pub. En fait, moi je suis un peu tu vois, j'ai un peu peut-être le prisme de la free party qui me fait voir les choses comme ça. Mais si ça fait de la thune, si c'est sexy, tu vois, si ça permet de vendre de la boisson et tout comme ça, ou si la clientèle elle donne de l'argent, ouais, il y a des gens qui investissent là-dedans, quoi.
Ainsi, Internet a permis la création de communautés augmentées et a rendu visible la décentralisation déjà à l'œuvre dans les années 2000. Pourtant, le digging, l'activité de recherche de nouvelles musiques, n'est-il pas devenu une activité solitaire, contrairement aux décennies précédentes où il était nécessaire de se déplacer chez le disquaire ou d'en parler à ses amis? Est-ce qu'avec ce nouveau mode d'écoute, seul devant un ordinateur ou un smartphone, le lien communautaire ne se délite-t-il pas? Je laisse Kamtar nous expliquer son point de vue.
Ça dépend. Alors encore une fois, je pense que tout est, enfin, c'est pas tout noir ou tout blanc. Effectivement, on est passé sur d'autres moyens, en tout cas pour faire du digging. Comme je t'ai dit, pour moi, il y a de nouveau un attrait très fort, en tout cas pour un retour chez les disquaires. Il y avait ce truc communautaire chez les disquaires. Je pense qu'il est encore présent. Maintenant, le digging, oui, ça peut se faire seul chez soi. En soi, c'est peut-être aussi des fois une bonne chose pour les gens. Il y a des gens aussi qui vont diguer des choses, qui vont vouloir les partager. Moi, je me souviens à l'époque sur Facebook, il y avait des groupes, les Chineurs de House, les Baume aux Plages, tout ça, où c'était vraiment un truc où les gens partageaient en fait les musiques qu'ils trouvaient. Donc, même si c'était tout seul chez toi, tu le partageais avec les gens sur les réseaux sociaux. Pour qu'on soit, il y avait quand même ce truc communautaire. Et après, il y a aussi les gens qui, oui, diguent de leur côté et c'est leur track à eux, ils veulent pas les donner. Voilà, bah c'est chacun le vit comme il veut. Je pense que la musique, c'est du partage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en disquaire. Faut pas hésiter à partager et à faire découvrir, en tout cas, ce que nous on aime aux autres. J'ai le souvenir là en mars, je suis allé mixer avec un pote sur Lyon. Et à Lyon, il y a un disquaire qui est très connu, notamment parce que les gens qui le tiennent sont DJ et c'est reconnu, ça s'appelle Le Gramme VG. Et en fait, bon, il y avait des gens quand on est arrivé, et en fait, même nous, chacun de notre côté, on a sélectionné nos scuds, nos émissions de notre disque, on est de notre côté, on les a écoutés, et puis c'est un peu chacun s'est barré de son côté. Donc, même si on va chez le disquaire, au final, on reste un peu tout seul comme si on était devant notre ordi, quoi.
Non, je pense que quand tu es chez le disquaire, c'est pas quelque chose de solitaire. Même maintenant, en vrai, quand tu vas chez un disquaire, moi, je vois, par exemple, je vais souvent à Sacrophone, qui est un disquaire à Paris. J'aime énormément parce qu'il a plein de pépites, etc. Et pour le coup, c'est vraiment un partage. Tu peux vraiment discuter avec lui directement. Il va vraiment te conseiller selon les vibes que tu recherches. Et du coup, je trouve qu'en ça, le disquaire, c'est, même encore maintenant, ça reste vraiment pas quelque chose de solitaire. Là où ça peut être un peu solitaire, c'est bah, l'ère du numérique. Maintenant, on va chercher, rechercher sur différentes chaînes YouTube, différents. Des fois, moi, je vais aussi voir ce que mes artistes préf like pour écouter ce qu'ils aiment, etc. et m'en inspirer un petit peu. Donc, dans cette partie-là, on peut trouver que ça peut être un peu solitaire, mais il y a eu pas mal de plateformes aussi qui ont été mises en place que je trouve cool. Qui permettent de partager un peu ces unreleases avec des artistes et du coup de pouvoir un peu noter. Et du coup, vu que tu partages tes unreleases, en soi, c'est pour favoriser le digging pour les autres artistes. Bah, y a quand même un peu ce je te fais partager ma musique et en retour, bah, toi, tu me partageras ton opinion. Et du coup, ça facilite un peu le digging aussi pour certains artistes. Et après aussi, ce qui s'est grave mis en place, en tout cas dans la UK, c'est beaucoup ce qui tourne dans la sphère UK Garage, c'est que tu as plein de labels maintenant qui ont une espèce de shortlist un peu d'emails et qui partagent un peu toutes les unreleases comme ça à un peu des personnes select, entre guillemets, select dans le sens où des partenaires un peu du label ou des artistes qu'on aime bien dans d'autres pays, etc. Bah voilà, cette shortlist, on va leur envoyer directement toutes les unreleases. Et ce qui se passe énormément, c'est que du coup, quand tu vas devant un set UK Garage, les trois quarts des sons, c'est des unreleases et tu peux pas les retrouver, quoi. Donc après, toi, pour les diguer, si t'es pas dans cette shortlist-là, là, tu peux te sentir un peu seul et te dire, ok, mais je fais comment pour les avoir, ces sons-là? Donc il y a une petite forme d'élitisme aussi dans le digging, en tout cas dans certains milieux. Mais après, oui, le digging, c'est clairement de la recherche, ça prend du temps. En ce sens-là, je pense que tu peux te sentir un peu seul dans cette recherche-là. Mais si tu t'entoures de très bons potes DJ, nous, ce qu'on fait entre nous, c'est clairement, on se partage. Oh, regardez les gars, je viens d'écouter un truc incroyable. On envoie le son et voilà. Donc, il y a quand même de la communauté autour du digging, même si de base, c'est quand même une activité assez solitaire.
Le digging, c'est personnel. Le digging, c'est... pour moi, c'est personnel. Après on parle de ce qu'on a trouvé avec les copains. Et on dit, et on fait écouter aux autres ce qu'on a écouté, ce qu'on a apprécié. Mais si, tu vois, c'est personnel, et encore, il y a peut-être un mec qui a écrit quelque chose sur ce que tu es en train de chercher. Donc en fait, ouais, il n'y a pas l'interaction humaine, mais il y a quand même une passation d'informations qui se fait. Comme tu vois, comme un des premiers disques de breakcore j'ai acheté à Orléans, et le gars il me fait, je comprends rien, ça vient de Milwaukee, je pensais que c'était du hip-hop. Et c'est voilà, c'est ça qui m'a dit le disquaire, quoi. C'était pas Milwaukee, mais je sais plus d'où ça venait, mais c'était... Enfin voilà quoi, il m'a juste dit ça le disquaire. Et j'étais, ah ouais, cool. et heureusement qu'il y a eu un jour une page Discog pour que j'en apprenne un peu plus de ce label, quoi. C'est toujours ça, tu vois. Et moi, j'ai peut-être un peu timide et introverti. Ouais, je suis pas allé voir. J'avais pas non plus le maxi pod disquaire chez qui on est toujours une dizaine à boire des coups. Non, j'avais pas ce trop nerd, trop timide, déjà trop barré dans des musiques cheloues. J'ai pas eu ce truc-là. Donc au contraire, tu vois, ce safe en fait, de pas avoir tout de suite une interaction avec un humain et pouvoir quand même explorer la musique en long et en large. Mais c'est comme aller à la bibliothèque, quoi. La bibliothèque, ouais, t'as pas besoin de parler au bibliothécaire pour passer un bon moment.
Non, parce que le disquaire, il te propose plein de choses. Si c'est un bon disquaire, il va proposer plein de choses qui vont pouvoir t'intéresser. Et justement, il sent le client, en fait, qui va... il faut entretenir cette relation avec le client quand on est disquaire, en effet. Je pense que c'est super important et ça devient même des potes, tes clients, au final. Les disquaires indépendants, ils ont toute une communauté aussi derrière eux à cette époque-là. Mais même après, en fait, même les disquaires d'aujourd'hui. C'est pas une activité solitaire, en effet, le digging. Souvent, tu vas diguer des vinyles avec tes copains, en plus. Ou bien c'est même des sorties qui se font. Nous, par exemple, on allait à Paris faire les disquaires. On allait à, je sais pas, 3-4 disquaires dans la journée. Et puis, ça faisait un trou énorme dans le porte-monnaie. Et voilà, on s'était fait refourguer une vingtaine de vinyles, quoi. Et on en profitait, en fait, pour parler musique. Communiquer autour de vraiment nos passions, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec le numérique, c'est devenu quelque chose de solitaire? Je pense en effet que c'est une pratique assez solitaire au final, parce qu'elle isole un petit peu aussi, hein. On va très vite écouter plein de choses et on n'a pas cette relation avec un disquaire ou avec... on va peut-être avoir une relation avec un prescripteur blog où on est abonné à un compte sur SoundCloud ou sur Bandcamp, etc. Donc on va suivre aussi ces sorties et puis diguer un petit peu. Je trouve qu'on digue moins, on est plus dans une sorte de programmation, en fait, quand on va être moins, peut-être moins attaché aussi au disque, au support, en fait, qu'on peut avoir. Et du coup, il rappellera peut-être moins de souvenirs, ce track. Et peut-être même pas, en fait. Peut-être qu'on va avoir plein de souvenirs avec un track numérique que quelqu'un nous aura envoyé parce que il est super, déjà, ou parce que ou parce que la personne qui l'a envoyé, elle a particulièrement retenu ton attention, quoi. Donc là, je parle un peu de moi aussi du côté radio, parce que diguer, c'est pas... diguer numérique, c'est aussi entretenir des liens, en effet, avec des producteurs, des labels, des artistes, enfin voilà. Et après, c'est faire son choix, en fait, dans toute cette musique qui nous est envoyée. Et puis après, on peut diguer aussi, c'est-à-dire on peut continuer à acheter de la musique de toute façon. Et on peut avoir des rapports avec des artistes, mais on va rarement avoir des rapports humains avec Bandcamp, quoi. Dommage.
Les débuts d'Internet ont largement facilité l'accès aux musiques électroniques et à la club culture. La communication a elle aussi augmenté drastiquement dû à l'apparition de réseaux sociaux centralisants comme Facebook. Mais alors, que s'est-il passé depuis ? Comment les réseaux sociaux ont-ils influencé notre expérience de la musique électronique et du clubbing ? Voici quelques questions que nous aborderons dans le prochain épisode d'Online Club.
L'algorithme.
Les réseaux sociaux, c'est obligatoire.
Il y a un côté presque un peu fast fashion.
Un set, une track.
Aujourd'hui, DJ is the new rockstar.
Être DJ, enchaîner deux morceaux, tout le monde est en capacité de le faire.
Je pense que la musique, c'est du partage.
Pour moi, c'est un voyage, un sentiment de communauté aussi.
Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal.
Maintenant, on recherche clairement l'image, l'instant T, le banger.
À l'heure actuelle, c'est ça. Il faut que ça soit en vidéo.
La musique, c'est de l'écoute, c'est pas de l'image.
Il y a peut-être un appétit, une gourmandise du feedback.
Si on n'en discute pas, il n'y aura pas de changement.
Get out of here. créol, vini brané, vini machiné, à nous aller, à nous piquer, nous ni jaqué, son homme sérieux, nous ni Alexis, à la guitare, nous ni Birando, à la conga, nous ni Eddie, à la batterie, nous ni Camille. Au saxophone, prêt à se y promène, antinome qui nous. Mikolasi, aïe, Mikolama. Mikolasi, aïe, Mikolama. Mikolasi, aïe, Mikolama. Mikolasi, aïe, Mikolama.
Oh, do you listen to me now?